Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Crème de la Crème. On est ensemble pendant une heure pendant laquelle vous entendrez quelques nouveautés musicales brûlantes entre notre nouveau disque d'or de la semaine et puis aussi un single pour Memorials dans lequel ce projet se cache une ancienne Electroline. Et puis on écoutera Matty à deux reprises. Là c'est le projet solo d'un ancien Bad Bad Not Good. La page culture nous permettra de tout savoir sur C'est quoi ce Bean, spectacle de théâtre de rue, de danse de rue, qui sera proposé mardi et mercredi soir Place Soche à Rennes par la compagnie Pulsion Publique. On parlera de Calamity Jane et de Jeanne d'Arc, oui, avec Jane Orcher, interprète et autrice de ce spectacle. C'est quoi ce Beats? Et puis en fin d'émission tout à l'heure, des infos concerts où j'évoquerai eh bien, des événements qui se profilent le 29 juin. Par exemple, une série concert sur l'épisode de la mouche de la série Breaking Bad, plus le BD concert des Totoro and Friends, adapté du très bon Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Et puis on évoquera aussi la fête des squares au quartier Longchamp du 27 juin au 6 juillet avec deux concerts, le 29 juin Meirane et puis le 6 juillet Yildiz. Les deux concerts auront lieu à la ferme des Galets. On commence directement au Crème de la Crème avec notre nouveau disque d'or de la semaine. C'est le premier album pour le très beau projet Bored at My Grandma's House. C'est une musicienne de Leeds, Amber Strawbridge, qui nous a fait découvrir son univers plutôt intimiste, hein, où elle nous parle d'anxiété, d'amitié, d'amour, de la santé mentale, de la perte et puis de l'empathie. Ou du manque d'empathie dans le monde. Un premier album qui sort pour le label Clue Records. Il est disponible depuis vendredi dernier et on en écoute un extrait entre pop et shoegaze qui donne un peu le là sur cet album. Ça ressemble pas mal à ce que vous allez entendre maintenant, le morceau Don't Do Anything Stupid. Et cette injonction s'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde. Bored at My Grandma's House, bonne émission.
Someone to be around.
Memorials à l'instant, un duo, c'est Verity Sussman d'un côté, ancienne Electrolane, et puis Matthew Sims de Wire. Ils sortent un premier single ensemble, Acceptable Experience, c'est disponible ce lundi sur le label Fire Records. Très très chouette, ces deux basses qui s'entrecroisent et puis ces petits riffs de clavier Farfisa. Très 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 chouette. Ça nous parle quoi? Bien de plans qu'on n'a pas réussi à réaliser, de bateaux ratés, d'espoirs détruits et puis de changements de vie ou même de spirales qui nous entraînent complètement hors de tout contrôle. Toute ressemblance avec le monde actuel ne serait, à mon avis, pas du tout fortuite. C'était Memorials avec un premier single. J'espère qu'il y en aura d'autres à suivre. On poursuit en tout cas l'émission, là encore avec un échappé d'un autre groupe plutôt fameux. Il s'agit en l'occurrence des Bad Bad Not Good. Le musicien canadien Matthew Tavares, alias Matty, revient avec un double single dont je vous propose un titre maintenant. Ça n'est pas une reprise d'un morceau de George Michael, même si qui ressemble un petit peu, c'est le titre Around the World. L'impression au début de ce titre Around the World par Matty que c'était une reprise du morceau Faith de George Michael. Eh bien non, pas du tout. On y ressentait quand même quelques ressemblances. En tout cas, un extrait de l'album Pops qui sortira le 16 août prochain pour le musicien Matthew Tavares, alias Matty, un échappé de Bad Bad Not Good. Ça sortira sur le label Lex Records. Et c'est un petit single double tube, en fait, hein, j'ai l'impression, avec à suivre un morceau pop 60s, peut-être, mais qui lorgne un petit peu du côté des Jesus and Mary Chain. Et c'est plutôt très chouette. On écoute donc Matty à nouveau. Et puis juste après, eh bien, ce sera la discussion avec Jen Orcher, interprète et autrice de C'est quoi ce Beans, spectacle de rue à retrouver ce mercredi à 20h, Place Hoche. Mais pour l'instant, Matty. la page culture de Crème de la Crème aujourd'hui, je reçois Jen Orcher, bonjour.
Bonjour Yann.
Comédienne, mais pas seulement, parce que tu as aussi participé à l'écriture de ce spectacle qu'on va évoquer. C'est quoi ce Beans par la compagnie Pulsion Publique. À voir ce mardi, ce mercredi, Placoche, en extérieur. Alors j'espère qu'il fera beau pour vous et pour les deux personnages que vous mettez en scène. L'une est née en 1852, ça c'est vrai. On l'a appelée Calamity Jane. Son vrai nom c'est Martha Jane Canary. Oui. Et l'autre est née bien avant, vers 1400. 112, on ne sait pas vraiment, elle est morte, ça c'est sûr, en 1431. C'est une certaine Jeanne d'Arc. Deux personnages dont vous avez déjà entendu parler pour la part de mythe qu'elles ont toutes les deux, évidemment, dans les imaginaires de deux pays, la France, les États-Unis. Deux légendes, toutes les histoires qu'on leur attribue ne sont peut-être pas vraies, mais peut-être que si. On est bien parti pour du spectacle dans l'espace public, là, parce que ça va parler à tout le monde forcément, de manière différente sans doute. On va revenir avec toi, Jen, peut-être à l'origine de ce spectacle. Comment vous avez eu envie, avec Pulsion Publique, de les mettre en scène, ces deux monstres sacrés en fait de l'imaginaire mondial?
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'est pas parti en se disant on va faire rencontrer ces deux personnages. On est parti plus sur nos histoires personnelles, puisque ce spectacle, c'est la rencontre de Lena Fishbeck, qui est donc américaine et danseuse, et moi-même. Et on s'est posé la question toutes les deux de nos nations, de qu'est-ce qui nous appartenait, qu'est-ce qu'on portait toutes les deux de nos nations, et qui faisait qu'aujourd'hui, on était des femmes libres dans nos pays blancs et colons. Et on s'est dit que toutes les deux, on avait du mal à porter ça, en fait. On n'était pas fiers, quelque part, d'appartenir à ces pays-là. Mais c'est l'héritage qu'on avait. Et on s'est dit, tiens, on va railler un peu nos nations et on va essayer de comprendre nous-mêmes pourquoi, à un moment donné, c'est devenu des nations. Quelle est cette notion de nation ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est tombé sur la tête ou... Non, absolument pas. C'est quelque chose qui est construit et qui se construit beaucoup sur des mythes urbains. Et ces deux femmes font partie de la mythologie de la construction de nos pays. Et ces deux femmes qui interviennent à peu près dans l'histoire au moment où la notion de nation apparaît et en France et aux États-Unis. Avant, la France n'était pas vraiment la France et les États-Unis n'étaient pas les États-Unis. Voilà.
Deux personnages, Calamity Jane, Jeanne d'Arc, que vous présentez évidemment comme à la fois admirables et détestables. Évidemment, admirables parce que des femmes libres qui vont au bout de leurs idées pour arriver à des résultats plus ou moins réussis, parce que détestable, évidemment, Jeanne d'Arc veut bouter l'anglais hors de France. C'était une époque très très lointaine. Je suis pas spécialiste en histoire, je dois l'admettre. Quant à elle, Calamity Jane a participé un peu à l'extermination des Amérindiens quand même. Aux côtés du général Custer. Donc, c'est pas deux héroïnes toutes blanches quand même.
Hein. Absolument pas. Comme d'ailleurs, je pense, la plupart des héroïnes ou des héros. Oui. Parce que des héroïnes, on en a pas beaucoup.
On en a pas tant que ça.
En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en ce moment, souvent, on se replonge dans des choses. Et là, je lis Titiou Lecoq qui fait les femmes oubliées de l'histoire. C'est hyper intéressant. Allez le lire. C'est assez incroyable. En fait, comment nous-mêmes, on est matrixés de la tête par rapport à la place de la femme qu'elle a dans la société, tous les moments qui ont été évincés. C'est comme imaginer que Jeanne d'Arc, tout d'un coup, a pris l'armure comme une seule femme qui n'avait jamais fait ça, alors qu'en fait, il y avait des seigneuresses, évidemment, qui devaient défendre leur territoire puisque les hommes partaient à la guerre. Et en fait, c'était pas commun, mais quand même assez... assez normal à cette époque-là que des femmes portent l'armure et aillent se battre pour défendre leur territoire, leur peuple, même si c'était en petite seigneurie.
C'est quoi ce Beans ? Ça débute comment ? On va pas aller jusqu'au bout du spectacle, puisque ça, vous le verrez mardi et mercredi soir, place Hoche, mais ça commence avec ces deux personnages, ces deux mythes, et puis un objet qui va servir de lien entre les deux, entre le public et puis le spectacle, un jukebox en fait.
Un jukebox, oui, histoire d'aller encore plus dans les anachronismes. ça commence d'abord par, en fait, un espace public qu'on investit, c'est ça les arts de la rue. Donc là, c'est un gradin qui est posé dans l'espace public. Et au début, il n'y a rien, en fait. Il y a juste un espace. Et puis, Jeanne d'Arc va débouler. Leur prendre le public comme ses propres troupes. Et puis ensuite, va repartir, et puis Calamity va arriver, et puis à un moment donné, elles vont se rencontrer et vivre une aventure devant vous. En sachant que c'est pas une dramaturgie linéaire, on passe plutôt de ce qui se passe vraiment devant vous à quelque chose d'abstrait, comme si on basculait. Aussi comme on passerait de l'histoire à l'intime de ces personnages. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est de comprendre comment elles avaient vécu ça, elles, dans leur corps, en fait. Parce que souvent, c'est des histoires, on parle de choses grandes, mais en fait, c'était des femmes avec deux pieds, deux jambes, une tête, un cœur, un sexe. Et on a pu essayer de s'approprier ça de cette façon-là, nous, par le corps, en fait.
Deux femmes qui ont des points communs, évidemment. Elles maîtrisent toutes les deux l'art équestre. Elles ont un penchant, quand même, pour la violence. En tout cas, elles sont dans des milieux où la violence est reine. Alors, forcément, ça rejaillit sur elle aussi. Il y a des choses différentes chez elle. Jeanne d'Arc, évidemment, elle n'est pas créatrice de son histoire, j'ai l'impression. Elle a été tout de suite ôtée de Jeanne d'Arc. Calamity Jane, en l'occurrence, c'est plutôt le contraire, en fait, parce qu'elle s'est fabriquée sa légende. Elle a quand même elle a fait une autobiographie, il y a des lettres à sa fille, dont on ne sait pas si elles sont vraies ou pas. Elle a fait partie du Wild Wild West de Buffalo Bill. Alors, elle n'est pas venue à Brest ou à Rennes en 1905, puisqu'elle est morte deux ans avant. Et elle est morte, d'ailleurs, pas de manière aussi... de manière dramatique, mais pas de la même manière. Elle n'a pas été brûlée pour hérésie, non. Elle est morte alcoolique, pauvre, dans la misère la plus totale.
Elle a brûlé de l'intérieur, elle.
Elle a brûlé de l'intérieur. Alors, comment vous les avez vus apparaître, ces proximités, finalement, entre deux personnages dont on ne pourrait pas imaginer qu'il y a autant de proximités, quoi?
Bah, c'est vrai qu'en plus, c'est apparu un peu petit à petit, en fait, à la longue, d'aller fouiller à l'intérieur d'elle, même s'il y a des choses... Tout d'un coup, c'est comme si on était un peu comme Jeanne d'Arc, et on s'est dit, waouh, mais c'est ça l'idée, en fait. C'est ces deux femmes-là qu'il faut se rencontrer. Et après, on a trouvé, en effet, tout ce qui était commun. Et ce qui nous a un peu aussi, des fois, compliqué la tâche, en effet, c'est qu'est-ce qui était... De quoi elles avaient conscience, en fait. Elles étaient prises dans l'histoire, comme chacun de nous, on est pris dans l'histoire de notre époque et tout ça. Et à quel moment, en fait, est-ce qu'elles ont été libres là-dedans, ou est-ce qu'elles ont été complètement utilisées, en fait? Parce qu'à un moment donné, elles ont pris des places particulières pour des femmes, à cette époque où c'était compliqué. Et comment elles ont, elles... C'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment se mettre dans leur tête. Mais on peut, en tant que femme, imaginer à quel moment même tu te fais complètement déborder. Tu trouves enfin une place alors qu'en vrai, tu n'en as pas vraiment. Tu vas l'arracher un petit peu avec larmes et sang. Et puis ensuite, je pense que même Jeanne d'Arc, elle ne s'était pas imaginé une carrière de guerrière, en fait. Mais je pense que quelque part, tu trouves une place et du coup, comme n'importe qui, tu as envie d'y rester. Même si c'est moche, finalement. Et voilà, c'était là-dessus un peu qu'on a travaillé.
We'll be right back.
Si Jane Orchet, qui nous parle depuis quelques instants, a évoqué une sorte d'anachronisme avec la présence d'un jukebox entre les deux comédiennes et les deux personnages, Calamity Jane et Jeanne d'Arc, en voici un autre d'anachronisme, puisque si on peut imaginer dans un spectacle comme C'est quoi ce Beans, un duel, moi je l'ai imaginé, et apparemment il y a un duel, on n'était pas dans une musique de western, mais c'était quand même Ennio Morricone avec un extrait d'un film Les Incorruptibles. Vous avez choisi ce titre-là pour illustrer un des moments du spectacle. La bande-son, comment vous l'avez fabriquée, travaillée? Parce qu'il y a des choses qui arrivent immédiatement, comme ça on peut imaginer un petit flutio médiéval pour évoquer Jeanne d'Arc, et puis un western avec un extrait du bon La Brute et le Truand. Non, vous n'avez pas fait ça.
On n'a pas fait ça. On a beaucoup cherché parce qu'en fait, à un moment donné, on voulait que musicalement, il y ait autant de morceaux français qu'américains. Et on a abandonné l'histoire, pour tout vous dire. On a travaillé avec un musicien qui s'appelle Arnaud Ricozzi, qui est un musicien de Croûte, un groupe un peu qui n'est pas forcément très connu, mais qui font un super boulot. C'est rock, psychédélique, jazz, et qui travaille aussi avec les Monty Python. Ça, les gens connaissent plus, et qui nous a accompagnés en fait sur cette création. Donc, il a fait aussi des compos. Et ensuite, on a été chercher des morceaux nous-mêmes pour travailler. Et on a aussi fait appel à Danny Fournier qui nous a écrit une chanson sur Jeanne d'Arc et Calamity que vous découvrirez à la fin du spectacle. Mais c'est vrai que tout ce qui est petit flutio et tout ça, on va dire évocation du Moyen-Âge. Nous a pas vraiment beaucoup porté. Donc on a laissé quand même Mireille Mathieu. Et ouais, pour tout vous dire.
Quand il est question d'hérésie dans le spectacle, moi je pense forcément au Monty Python et au fait qu'on peut voir si une sorcière flotte ou pas. Là, on est vraiment dans la bouffonnerie totale.
Mais
je crois quand même que Pulsion Publique a un goût aussi pour la bouffonnerie.
Évidemment, on a un goût pour la bouffonnerie. C'est comment on aborde des sujets, on va dire, sérieux, en allant un peu tordre tout ça pour amener le rire. Et puis comment on se sert de, on va dire, de ces figures-là et qu'on les détourne quelque part parce qu'on les met dans des situations qu'elles n'ont jamais vécues et on pousse les curseurs. On pousse les curseurs jusqu'à en faire des caricatures. En plus, ce qui nous a beaucoup amusé avec ce spectacle, on a beaucoup recherché sur les clichés de nos pays. Et c'est pour ça aussi qu'on en est arrivé à utiliser ces deux personnages.
Et ce nom de spectacle et l'affiche.
Et ce nom de spectacle et l'affiche, voilà. C'est comment on arrive à... Enfin, oui, les Français, on est nuls en anglais. C'est une réalité. Donc, comment on met ça en jeu, nous aussi Oui, les Américains, on va dire, tu prends un petit problème, ils vont parler pendant des heures. Oui, les Français sont fiers. On a listé comme ça tout ça et on a essayé de mettre ça, de tricoter ça à l'intérieur. Voilà.
La nation, en ce moment, elle est un petit peu, en interrogation sur ce qu'elle est vraiment, sur ce qu'elle veut devenir. C'est pas juste des élections en ce moment qui font qu'un pays devient nation. Voilà, c'est sûr. Mais là, quand on voit, par exemple, qu'un personnage comme Jeanne d'Arc a été récupéré par l'extrême droite, quand même, par le Front National à l'époque, et puis aujourd'hui, on voit que ça continue aussi dans le Rassemblement National. Certains historiens expliquent que voilà, c'est une savante confiscation de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on en fait de ça finalement?
Eh ben, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, déjà, ce qui m'a le plus, on va dire, perturbé quand on a commencé à travailler sur ce spectacle, c'est que j'avais un drapeau bleu, blanc, rouge dans la main. Et ça m'était jamais arrivé d'avoir un drapeau bleu, blanc, rouge dans la main. Et en plus, j'avais récupéré le drapeau que ma mère avait à la sortie de la guerre pour accueillir Charles de Gaulle. Donc, j'étais avec ce drapeau et c'est vrai que tu te dis, finalement, c'est un symbole qu'on m'a volé quelque part. Puisqu'il a été aujourd'hui, enfin, il est, on va dire, Front National. On ne dit plus Front National, mais c'est pas grave. Et j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à accepter de travailler avec ce symbole-là. Et c'est toujours assez surprenant comment tu vas, écrire pile poil à l'endroit, finalement, où ça coince aujourd'hui dans la société. Puisque c'est assez intéressant de se poser la question, puisque là, on est sur une notion d'identité, de nation, de qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on a peur de perdre, alors que finalement, tout ça, c'est quelque chose duquel on hérite et sur lequel on n'a absolument pas de recul, puisqu'on évite, en fait, même dans les manuels d'histoire, d'aller avoir une vraie lecture de cette histoire et de ce qui nous appartient et ce qui nous est inculqué et matraqué. Voilà, donc c'est vrai que c'est hyper important aujourd'hui de prendre parole en général. De toute façon, c'est hyper important de prendre parole et de délier en fait la parole et d'amener les gens à s'exprimer sur des problématiques sur lequel ils réfléchissent pas forcément. Et c'est un peu notre rôle, nous, en plus, art de rue. Et là, c'est vrai que j'avais pas imaginé ça en programmant C'est quoi ce Beans à cette période de l'année à Rennes. Je pensais que c'était, même si c'est déjà un vrai parti pris d'aller jouer dans l'espace public, là, d'autant plus, on est à un endroit compliqué. C'est presque à se dire, est-ce que je vais me faire casser la gueule parce que je vais débarquer en Jeanne d'Arc dans l'espace public?
Et casser la gueule par qui, en plus?
Et casser la gueule par qui?
Parce que certains pourraient croire que c'est de la provocation et se dire, non, on ne touche pas à la pucelle de cette manière, ça serait l'extrême droite.
Ouais.
Et donc, on dirait, mais non, mais vous vous rendez pas compte, c'est de la provocation.
C'est de la provocation.
De jouer un personnage qui fait rejaillir des démons nationalistes.
Ah. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça met à des endroits, enfin, là, c'est sûr, tu te dis, ah... Mais en même temps, c'est intéressant, voilà. C'est comme, j'aime beaucoup discuter, aller provoquer. Et c'est les premières fois que je discute avec des gens qui me disent, bah, écoute, moi, je suis de droite et là, je ne sais pas quoi faire. Mais jamais je pourrais voter à gauche. Et tu dis, bah, pourquoi, en fait, jamais tu peux... pourra voter à gauche. Je pense qu'aussi, c'est des vieux démons communistes du fait de, que les gens perdent quelque chose, que ce soit le chaos, si c'est la gauche. Enfin, il y a des choses comme ça qui se trament, en fait, et qui restent, qui sont toujours assez étonnantes.
En tout cas, si on ne pourrait pas dire aujourd'hui pour qui voterait Jeanne d'Arc, on ne peut pas dire non plus pour qui voterait Calamity Jane. Est-ce qu'elle aurait envie de voter
pour Trump,
par exemple?
Ouais.
Et est-ce qu'elle voterait
déjà? Est-ce qu'elle voterait Calamity Jane? C'était quand même une sacrée un sacré personnage qui avait quand même un jean-foutisme à mon avis assez haut et puis qui était ce qu'on dirait aujourd'hui une grosse schlagos quoi. Même si finalement à chercher sur son histoire, elle a aussi eu un rôle dans son petit village quand elle était alcoolique. En fait, elle soignait les gens, elle s'occupait énormément des autres, ce qui nous a beaucoup surpris et qui nous a dit tiens c'est marrant quand même, est-ce qu'elle cherchait à récupérer, aller aussi se mettre des pansements aux endroits où elle avait été un peu trop loin, on va dire, en allant tuer les autres. Bon, je ne sais pas, le mystère demeure.
Vous pourrez choisir votre personnage préféré, votre morceau préféré dans la bande-son de C'est quoi ce Beans. Mais en tout cas, allez découvrir la compagnie Pulsion Publique qui vous propose ce moment de bouffonnerie dansée. Précise bien, c'est mardi 18 et mercredi 19 juin, c'est à 20h, c'est Place Hoche. On va terminer avec un morceau américain, mais pas ancien, et pourtant il est australien, le chanteur qui chante ça, donc là aussi il s'approprie une culture qui n'est pas vraiment la sienne. Ça a été facile et évident de faire arriver ce titre de C.W. Stone King avec lequel on termine cette discussion. Jane, facile de l'amener dans le spectacle, ce morceau?
Eh bien en fait, on a construit certaines chorégraphies avec ce morceau, puisqu'on était sur l'état d'âme. En fait, de ces personnages. Et Mama Get the Blues va chercher quelque part, en fait, dans la mélancolie aussi. Et je pense que ces femmes ont dû certainement avoir des moments de mélancolie et d'avoir envie d'avoir quelque chose de doux aussi, quelque part.
Un peu de douceur dans un monde de brutes. Hommes ou femmes, peut-être, d'ailleurs. Hein, elles sont un peu brutales, parfois, aussi, hein, vos deux personnages,
ouais, mais
c'est
en
sûr.
Même temps, on n'est pas si définis que ça, je pense.
Pas d'une seule face, comme ça.
Non.
C'était donc, merci Jane Orcher,
de
venir nous parler de C'est quoi ce Beans, soutenu par la ville de Rennes, les Ateliers du Vent, la Loggia, l'Antichambre et le village de Saint-Péran. On termine avec C.W. Stone King. Oh! La session Info Concert aujourd'hui, je vous propose deux événements qui se dérouleront pour le premier, le samedi 29 juin, une double série BD concert avec d'un côté le série concert Breaking Bad sur l'épisode 2 La Mouche et puis de l'autre le BD concert des Totoro and Friends adapté du très drôle Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Tout ça se passera au Jardin Moderne et puis juste après on évoquera la fête des squares du quartier Longchamp à retrouver dans le quartier du même nom du 27 juin au samedi 6 juillet. La structure rennaise, la station-service qui propose la création de la diffusion musicale et puis aussi de l'accompagnement d'artistes a beaucoup fait pour la popularisation des ciné-concerts. Ils ont pu ainsi donner Le Prisonnier, Le Petit Fugitif, Sleepy Hollow ou bien Robocop. Et bien là, ils proposent un double événement le 29 juin au Jardin Moderne. D'abord un ciné-concert, ou plutôt un BD-concert sur un bouquin de Fab Caro, le très très tordant Et si l'amour s'était aimé. C'est une création de Totoro and Friends. Et puis le même soir, vous pourrez découvrir un série-concert, cette fois autour d'un épisode fameux, le très bon épisode 10 de la saison 3 de la série Breaking Bad, intitulé La Mouche, où pendant plus de 45 minutes, les deux personnages principaux Walter White et puis Jesse Pinkman vont dans un laboratoire de fabrication de crystal meth chasser une mouche, tout simplement. Alors on est entre Pinter et puis Beckett et puis le surréalisme le plus fou, c'est sans doute l'un des meilleurs épisodes de toutes les séries confondues de tous les temps. Et bien il sera mis en musique par deux musiciens, Johan Landry de Microfilm et Benoît Gaucher de Nesseria. J'ai compilé pour vous les deux teasers musicaux de ce série concert Breaking Bad proposé donc le 29 juin au Jardin Moderne par la station service. On écoute.
Okay, look, we're running late, so let's just get started, shall we? The sooner we do it, the sooner we're done.
Freaking finally.
Whoa. What are you doing?
It's time to alkaline.
Have you not heard a word I said? No cooking until this fly is dealt with. Have I been speaking to myself?
The timer went off, yo. How long is this batch gonna be good for? An hour, two?
The batch will be good for nothing if we don't clear the contaminant.
Clear the contaminant? We're making meth here.
All right, not the space shuttle.
Taking nothing until we catch this fly.
What fly? All right, where the hell is this fly? Not like I even seen the thing. Maybe your positive pressure blew it out the door or something.
No, no, it is here. It is around, okay? Sure, and I'm not going to expose this batch to the open air and contamination, period. You can leave me to deal with this myself, or you can help me. But you are right. We are running out of time, so I need your answer right now.
Collage des deux teasers sonores de la série concert Breaking Bad qui sera donnée le samedi 29 juin prochain au Jardin Moderne grâce à la station service. On poursuit la session info concert en changeant de quartier. On va plutôt du côté de Longchamp, du côté de Maurepas avec cette belle proposition, la fête des squares 2024. Ça se propose à vous du 27 juin au 6 juillet au quartier Longchamp. À Rennes, donc, bien sûr, mais vous aurez l'occasion de retrouver plusieurs endroits et plusieurs ambiances musicales hein, dans cet événement-là. Ça commencera en tout cas le 27 juin à la Ferme des Galets. Très chouette endroit, hein, si vous connaissez pas, allez faire un tour là-bas, c'est y a un bar associatif, c'est vraiment très très classe hein, ce qu'on trouve là-bas. Il y aura une balade chantée et contée, et puis une veillée baltrade, plus scène ouverte. Je ne vous décris pas tout ce qui va se passer là-bas du 27 juin au 6 juillet, mais sachez que vous retrouverez par exemple le samedi 29 juin, toujours à la Ferme des Galets, et bien dès le matin, un tournoi de football, à 19h30, un repas organisé par le quartier Longchamp et puis à 21h de la musique mongole par le groupe Meirane. On écoute justement Meirane à retrouver à la Ferme des Galets le 29 juin pendant la fête des squares, quatrième du nom.
گفتی به پایان میرسم این رنج راه و زخم خواب گفتی سرایت دشت شور برایت سبززار آن ده که بودم آشیان شد تومه سگ های ها ویران شد آن باغ بهار، سیلان شد از خون جوی و بار.
ای سال بهار
Oh,
C'était à l'instant Meyrhane que vous retrouverez le samedi 29 juin à la ferme des Galets dans le cadre de la fête des squares du quartier Longchamp, la quatrième du nom. Je ne vous donne pas toute la programmation, mais il se passe des choses du 27 juin au 6 juillet. Et vous retrouverez justement le 6 juillet à la ferme des Galets encore une fois. À 18h30, le chœur des Longchamps et la chorale du Bois Perrin. Ensuite, un repas et puis un cinéma en plein air pour terminer et un concert de musique turque avec Yildiz. On termine Crème de la Crème et les infos concerts avec justement ce morceau d'Egme Felek par Yildiz. Retrouvez toute la programmation de la fête des squares sur le site www.longchamp.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission Crème de la Crème. Ciao.
Başım.